Et oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, merci de nous être fidèles. La semaine dernière, on était donc depuis Poigny-la-Forêt en compagnie de l'enfant du pays, Henri-Émile, hein, à l'occasion eh bien, des 30 ans de l'US Poigny. Eh bien, ce matin, on a retrouvé nos studios, mais les semaines se suivent et se ressemblent. On a toujours une actualité aussi riche, aussi dense et aussi chargée. Donc, on reviendra naturellement sur ces 30 ans de l'US Poigny avec un bilan complet et notamment une interview de Dominique Rocheteau au début de cette émission. On aura également eh bien, un petit direct avec l'autre grand événement de ce week-end de sport, la semaine équestre du Perret en Yvelines. On aura aussi nos amis du comité olympique et sportif des Yvelines pour nous parler des foulées olympiques qui se déroulent sur Buc. On retrouvera naturellement en tribune rugby entre 10h et 11h, donc vous voyez une actualité et un sommaire bien fournis. Et puis autre actualité importante, et on profite de l'occasion, c'est une tradition, c'est la finale du tournoi de tennis de La Clairière. Alors on reçoit nos amis de La Clairière ce matin, représentés par Alain Cintra. Alain, bonjour.
Bonjour Philippe.
On perpétue une tradition de faire un petit peu le point sur la rentrée de votre club à travers cette journée de finale pour le tournoi Open.
Oui, et puis pour nous, c'est toujours très agréable de venir vous rencontrer dans vos locaux. On a toujours le meilleur accueil.
Très bien. Alors Alain, très brièvement, vous avez commencé par le basket et maintenant c'est le tennis.
Oui, tout à fait. Pour moi, le tennis a été un petit peu une reconversion. Et puis, bon, depuis quelques années, j'ai mis mon expérience, je dirais, d'ancien entraîneur et d'ancien cadre dans le domaine du basket au profit du tennis.
Très bien. Voilà. Il y a des points communs, des similitudes entre les deux sports ou la façon de gérer un club, une association?
Oui, je crois que les points communs, c'est surtout dans l'approche de gérer ces associations sportives, dans la façon de les structurer, de bien définir des objectifs clairs, et de mettre autour les moyens, que ce soit des moyens humains ou que ce soit des moyens financiers.
Très bien, allez, la pub, la musique, et ensuite, comme on a un programme copieux, eh bien, on va rentrer dans l'actualité, donc, et notamment, on reviendra sur donc, eh bien, les 30 ans de l'US Poigny, donc tout de suite, musique et pub. Allez, je l'ai dit, on va rentrer dans le vif du sujet, hein, après donc la pub et la musique, parce qu'on a encore un dimanche sportif particulièrement dense et riche. La semaine dernière, nous étions, hein, Alain, depuis Poigny-la-Forêt, on a fait donc tribune sport et tribune rugby depuis Poigny, avec l'enfant du pays, Henri-Émile. Simplement parce que ben il y avait les 30 ans de l'US Poigny, hein, et que à l'occasion de ces 30 ans il y avait beaucoup de festivités sportives. Ça avait commencé donc samedi matin avec un gentleman cycliste remporté donc par l'équipe Hull et Denink en 18 minutes et 20 secondes sur le petit circuit. Il y avait 31 équipes, hein, qui ont toutes donc donné 2 euros pour leur participation. Malheureusement, il n'y a pas eu d'épreuve de tennis dans l'après-midi, et puis naturellement, eh bien, le dimanche après-midi, c'était la venue du Variété Club de France. C'était la troisième fois que le Variété venait sur Poigny et la Forêt. Il y avait eu donc la vue du Variété pour l'inauguration du stade Henri-Émile en octobre de 2001. Ils avaient remis ça donc 2 ans après pour la Fondation Platini en octobre 2003. Troisième venue donc du Variété avec un match très spectaculaire, hein, qui opposait donc l'équipe du Variété à l'équipe de la communauté. Match nul, 6 partout. Le Variété n'a pas gagné, ce qui a parfois donc provoqué le courroux de Jacques Vendroux. En tout cas, très bon début de match de l'équipe de la communauté qui menait 3-0 au bout de 20 minutes de jeu. Ils ont peut-être un peu ensuite payé ce départ rapide, nos amis de la communauté, ce qui a permis, avec leur expérience et leur métier, eh bien, de voir le Variété donc revenir à 3-3 et même de mener à la mi-temps 4-3. Ils ont accentué leur avance donc en début de deuxième mi-temps à 6-3. On pensait que le match était joué, et puis le tournant, ça a été l'expulsion d'un des joueurs du Variété qui a relancé l'équipe de la communauté, et cette équipe, eh bien, a su mentalement et physiquement très bien terminer son match pour donc partager les points du match nul avec le Variété. 6 partout, 1700 euros pour 600 entrées, hein, ont été donc enregistrées au cours de ce match. Il y a eu 300 euros aussi pour un ballon dédicacé aux enchères, hein, un ballon donc dédicacé de la part de l'équipe de France de football, et puis 1200 euros donc de tombola. Donc ça fait que même si on pouvait attendre un peu mieux et un peu plus, hein, du nombre d'entrées de spectateurs, on estime quand même que le bilan est globalement positif, et qui mieux pouvait symboliser donc cette journée donc organisée par l'association ELA, que l'ancien ange vert, hein, Dominique Rocheteau, hein, c'est lui qui en tout cas était le fer de lance. Il a marqué 2 buts, Dominique, il était le fer de lance de l'équipe de Saint-Étienne, et eh bien on l'a interviewé avant qu'il ne parte, hein, et après avoir donc après qu'il ait quitté le terrain, il nous a donné quand même quelques impressions sur ce match et puis cette journée donc pour l'association ELA, en partenariat avec donc l'association des supporters de Saint-Étienne, donc sur naturellement la région de Rambouillet et puis la France entière. On y va. Dominique, bon match aujourd'hui ici du côté de Poigny, match nul, c'est partout.
Ah, il y a eu des buts.
Ouais.
Et je dirais que non, mais l'important de ce genre de match, c'est de se faire plaisir, c'est de s'amuser, de se faire plaisir. Et bon, je dirais que nous, personnellement, on a eu un début de match difficile puisqu'on perdait 3-0 au bout de 10 minutes. Voilà.
Ouais. Alors, naturellement,
on a une bonne équipe, ouais. C'est bien.
Une journée dédiée ouvert, ça vous rappelle forcément des souvenirs. Hein. Quand on a été vert, on le reste à vie.
Moi, j'étais surpris parce que quand je suis arrivé, je croyais que c'était les anciens verts qui jouaient en fait. J'ai vu tous les maillots verts, tous les drapeaux verts. Là, il y avait pas mal de, ouais, c'est vrai, de supporters. De toute façon, je sais qu'il y a beaucoup de supporters de Saint-Étienne dans toute la France encore. Mm-hmm. Et c'est bien, je trouve ça bien.
Oui. Dominique, vous jouez le plus souvent possible avec le variété, dès que vous le pouvez, dès que votre emploi du temps vous en laisse un peu de temps.
Le variété joue tous les dimanches. Moi, je joue à peu près, je sais pas, tous les 15 jours. J'essaie de jouer le maximum, mais bon, ça devient difficile. Hein. Vous savez, j'arrive à me faire plaisir encore.
Alors nous, on le sait, mais le grand public ne le sait peut-être pas. Vos activités maintenant dans le foot, toujours la commission de l'éthique.
Elles sont multiples. Oh là, la commission de l'éthique, c'est pas mon activité principale.
Ouais, ouais.
Non. Bah, moi, j'ai beaucoup d'activités. Surtout autour des enfants, parce que j'organise des stages, notamment en France, mais aussi je viens d'organiser aux États-Unis, puis j'ouvre un centre au Vietnam également là.
D'accord.
Donc c'est un peu. Voilà.
Et reprendre un jour des activités dans un club, ça peut être d'actualité.
Oui, pourquoi pas. Je supporte plusieurs clubs, oui, mais des petits clubs.
D'accord.
Amiens, Paris FC, enfin il y a plusieurs clubs que je supporte. Parce que j'ai des amis qui sont dans le club.
D'accord. Voilà. Merci Dominique, merci. Hein. Voilà, en tout cas, toujours autant disponible, et croyez-moi, il était hyper sollicité, Dominique Rocheteau, hein, il venait de quitter le terrain 10 minutes avant la fin, et il s'apprêtait donc à partir. En tout cas, merci hein, pour celui qui a été l'ange vert, qui a marqué 2 buts au cours de ce match, et puis on va rappeler que c'était une journée en association avec donc ELA, dont on a entendu un des responsables la semaine dernière dans notre émission, et naturellement avec le parrainage hein, de l'Union des supporters stéphanois de France et de notre région. Voilà, Alain, le sport pour dans le domaine caritatif, c'est incontournable.
Oui, je pense que le sport, disons que le sport va bien au-delà de l'exploit sportif, ouais. Parce que je crois que le sport, c'est aussi l'école de la vie, et au travers du sport, c'est du moins ce qu'on a essayé de développer aussi au niveau du tennis club de la Clairière, c'est toutes ces actions au niveau de la construction des enfants et de la construction des individus, comme on dit toujours, parmi tous ces jeunes que l'on entraîne, qui passent entre nos mains, peu deviendront des sportifs de haut niveau, de très haut niveau, mais tous seront au moins des hommes.
Mmh. Et puis donner un peu de bonheur à des jeunes qui sont malades, c'est le moins qu'on puisse faire quand on est sportif de haut niveau, quoi.
Oui, je crois que ça fait partie du rôle aussi des associations, donc sportives, de jouer un rôle au niveau de la cité, et puis lorsque l'occasion est donnée, eh bien de participer à des manifestations caritatives, comme nous le faisons par exemple au niveau du Téléthon.
Mmh. Alors justement, le coup d'envoi a été donné par un jeune atteint de leucodystrophie, avec la présence du député de notre région, monsieur Jean-Frédéric Poisson, et puis il y avait aussi René Girard qui était dans les tribunes, et puis en plus de Dominique Rocheteau, ont participé à ce match, hein, parmi naturellement les célébrités qu'on connaît dans le domaine du sport, Sarr Boubacar, l'ancien avançant du Paris Saint-Germain et de Marseille, et puis un tennisman, Gilles Moreton.
Oui, voilà, comme quoi le milieu sportif est en fait une grande famille qui sait se réunir et se rassembler pour défendre les grandes causes et des causes qui sont toujours nobles.
Alors Gilles Moreton, eh ben il s'était aussi occupé du basket, hein, sur Villeurbanne il y a quelques années, et justement en matière de basket, il y a eu un autre événement hier, c'est que donc la Fédération française de basket a labellisé donc l'école de mini basket de Rambouillet. Ça s'est fait le 12 mai, et ben on a fait ça hier scolaire officiellement. Donc, il faut quand même remarquer que seules 200 écoles ont reçu à ce jour le label, dont 3 seulement dans les Yvelines, dont fait partie donc l'équipe du Rambouillet. Donc, bravo à l'équipe présidée par le président Christian Badet. C'est une bonne nouvelle aussi, hein.
Oui, mais comme on dit toujours, il faut mettre l'accent sur la formation des jeunes, et là, ben, on peut constater que le club de basket de Rambouillet a bien pris la balle au rebond, en quelque sorte, mm-hmm. et sur la bonne voie. Mm-hmm. Et on leur souhaite bon courage et tous nos voeux de réussite.
Alors justement, les jeunes, c'est hyper important chez vous, à la carrière.
Oui, il faut savoir que nous mettons aussi l'accent sur les jeunes. Alors, pour vous dire, cette année, on a dépassé la barre symbolique des 500 adhérents, ce qui prouve la bonne santé du club, puisque ça nous fait, au niveau des adhérents, une augmentation de 10% par rapport à l'année dernière, et avec toujours une constante, une forte représentation des jeunes, puisque nous avons, les jeunes représentent en gros 60% de notre effectif.
Mmh. Alors, justement, comment vous expliquez une nouvelle fois que, cette recrudescence des jeunes, il y a pourtant des clubs de tennis un peu partout. Il y a un club aussi sur le TCR, hein, sur Rambouillet, un autre club. Ça prouve que finalement, il y a de la place pour tout le monde.
Ça prouve qu'il y a de la place pour tout le monde.
Et que le tennis se porte bien.
Oui. On constate que le tennis se porte très très bien à Rambouillet. Il y a effectivement deux clubs. Je dirais que nous travaillons toujours sur deux axes. Il y a bien sûr le volet sportif, mais il y a aussi tout ce volet, je dirais, qui tourne sur les valeurs humaines, sur les valeurs citoyennes, qui est peut-être un petit peu une spécificité, ce qui fait qu'il se dégage au niveau du tennis club de la carrière une philosophie un petit peu particulière, et je dirais que beaucoup de parents, beaucoup d'adhérents sont sensibles à cette démarche, ce qui peut peut-être expliquer, je dirais, cette augmentation du nombre d'adhérents et cette constante au niveau des jeunes. En plus, il faut savoir qu'au-delà des entraînements spécifiques, on organise un grand nombre d'animations toute l'année. Donc véritablement, le tennis club de la Clairière est un endroit qui fixe les jeunes.
Donc la tranche d'âge, elle est très largement représentée chez vous finalement.
Oui, ça va. Hein? On peut dire que ça va de 6 à 70 ans, quoi.
Ah ouais. Et au niveau loisirs, compétition, comment se fait la répartition? Parce que ça aussi, il doit falloir gérer au sein d'un club.
Alors, la bonne santé d'un club, effectivement, se base sur un équilibre constant entre la compétition et le loisir. C'est-à-dire que l'erreur fatale, ça serait de tout mettre sur la compétition ou de tout mettre sur le loisir. Donc, il faut savoir gérer au plus près cet équilibre. Et c'est ce que on dit tout à l'heure en off. Moi, il faut, quand on gère un club, parfaitement définir les objectifs et afin de savoir où on va.
Il n'y a pas des fois des petits tiraillements entre le loisir et puis ceux qui sont plus portés vers la compétition?
Non, il n'y a pas de tiraillement. C'est aux dirigeants de veiller à ce parfait équilibre. Et puis, je dirais, d'écouter les gens. Nous faisons régulièrement, je dirais, des petits sondages pour connaître quelles sont véritablement les attentes de nos adhérents, qu'ils soient des adhérents du loisir ou des adhérents de la compétition. Et on essaie de répondre au mieux à ses attentes.
Alors, je l'ai dit, hein, il y a le TCR, il y a la Clairière. Est-ce que vos pratiquants sont tous de Rambouillet? Parce qu'il y a beaucoup de clubs avoisinants. Je suppose que ça vient de beaucoup plus loin, quand même.
Alors, justement, parce que, encore une fois, en se basant sur les statistiques que nous tenons régulièrement, ici, historiquement, le tennis club de la Clairière est né avec le quartier de la Clairière, et s'il y a encore un certain nombre d'années, on pourrait considérer que 90% des adhérents étaient des gens du quartier de la Clairière. Aujourd'hui, on constate que les gens de la Clairière représentent en gros 50% de l'effectif total, 55% ou 60%.
Donc c'est resté quand même
Oui, ça reste quand même la Clairière, mais je dirais la Clairière élargie quand même. La Clairière élargie. Et puis, on constate qu'il y a aussi de nombreux adhérents qui viennent des autres quartiers de Rambouillet, Et peut-être environ 10% des gens, 10 à 15% des gens qui viennent des communes avoisinantes.
Mmh. Et puis vous avez aussi des infrastructures qui font rêver quand même. Vous avez des chances particulières, vous avez plusieurs cours couverts entre autres. Hein. Et puis
alors nous avons
en plein air aussi, droit en terre battue.
Alors nous avons trois cours couverts, nous avons les cours extérieurs, et on s'attache tous les ans pour le confort et le bien-être de nos adhérents, qu'ils soient de la compétition ou des adhérents du loisir, et bien de procéder à la restauration ou à la rénovation des structures, puisque tous les ans, nous refaisons un terrain, et là, cette année encore, nous avons refait un terrain, et il faut souligner que la réfection de ces terrains sont complètement à la charge du club.
Ah, d'accord.
Ouais. Donc, ce qui prouve aussi la bonne gestion financière du club, parce que ça aussi, c'est très important.
Bien sûr. Donc ce sont des infrastructures qu'on peut utiliser 7 jours sur 7, de 7h à 23h par exemple, même peut-être la nuit.
Non, parce
quand même pas.
Quand même pas, mais effectivement, on peut venir jouer sur les cours le matin à partir de 7h jusqu'au soir 22h30, 22h45.
Mmh. Le tennis, aujourd'hui, c'est véritablement démocratisé. Hein. Ça fait très longtemps que le tennis, aujourd'hui, est devenu donc démocratisé, mais il y a eu des problèmes à un moment. À un moment, il y a eu une petite baisse des effectifs, et puis c'est bien reparti quand même. Hein.
Oui, nous n'avons pas trop ressenti cette petite baisse, qui était peut-être notable au plan national, mais nous ne l'avons pas absolument pas ressenti. Il faut quand même savoir que le tennis dans les Yvelines est le premier sport pratiqué.
Oui, oui, oui. Hein. C'est donc, très cher, quoi. C'est abordable par rapport à certains autres sports qui...
Oui.
Par rapport au golf ou au sport équestre, par exemple, qui reste encore très cher quand même.
Alors, ça reste,
pour des familles.
La pratique peut rester quand même plus importante que le foot ou que le basket, mais effectivement, le tennis est quand même considérablement démocratisé, et nous concernant, justement, en prenant en compte ces difficultés, je dirais, économiques, on essaie toujours de pratiquer des prix le plus bas possible, en pratiquant notamment des tarifs préférentiels pour les familles nombreuses.
Oui, parce que c'est un sport qu'on peut pratiquer en famille, ça aussi c'est bien.
Oui, c'est aussi ce que l'on essaie de développer au travers de certaines animations, de façon à ce que le tennis soit un sport individuel, mais soit aussi qu'on y trouve aussi un esprit collectif.
Mmh. Le prix d'une licence ou d'une cotisation, c'est de combien
Alors là, disons que
la fourchette,
ouais. Ça doit être 175 € pour la saison, pour le prix de base au niveau des adhérents. Alors ensuite, il y a des prestations qui viennent s'ajouter en plus si on veut prendre des cours individuels, des cours collectifs ou bénéficier d'entraînement d'équipe.
D'accord. Le matériel, est-ce que c'est cher pour quelqu'un qui voudrait commencer le tennis Bon, il faut une raquette, il faut un jeu de raquette, et on garde ça combien de temps
Ben, disons qu'ensuite, pour démarrer, déjà pour les plus petits, nous parfois on peut prêter du matériel. Hein. Ensuite, pour démarrer, on n'est pas tenu d'avoir, je dirais, un équipement particulièrement sophistiqué. Donc on trouve des raquettes à des prix relativement abordables. Alors ensuite, c'est un peu comme dans tous les sports, par exemple comme notamment au niveau du ski ou dans d'autres disciplines, plus son niveau progresse, plus il faut avoir un matériel adapté. Mais d'une façon générale, on peut quand même garder son équipement quelques années. Puis ça peut être aussi l'occasion de cadeaux, à l'occasion de Noël, d'anniversaire, ou des choses comme ça.
Ouais.
Hein, voilà.
Il y a une tenue stricte, réglementaire, quand on joue au tennis. Bon, les tennis, hein, faut pas de
voilà. Bah, disons que les sols sont quand même représentent quand même une certaine fragilité. Donc cela impose effectivement le port de chaussures adaptées. Autrement, il faut avoir une tenue. Il n'y a pas un protocole particulier.
Ouais,
il faut avoir une tenue, une tenue décente. Hein. Mm-hmm. Bah, par exemple, on demande aux gens, même s'il fait très chaud, de ne pas jouer torse nu, mais toujours d'avoir un t-shirt.
Hein. Bien sûr. Voilà, non, mais ça peut être aussi des problèmes de sécurité aussi. Hein. Jouer torse nu, c'est pas recommandé.
Tout à fait,
hein,
tout à fait. Oui, et puis bon, il y a quand même un petit code à respecter.
Mmh. Très bien. Alors, est-ce que c'est un sport de reconversion pour beaucoup, le tennis? Est-ce que on vient de sport co et puis à un certain âge, on se reconvertit
Oui, tout à fait. Alors bon, il faut quand même voir qu'il y a beaucoup de gens pour lesquels c'est leur sport d'origine, notamment chez les jeunes. Mmh. Mais on voit aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qui pratiquent plusieurs disciplines en même temps. Bon, il est vrai qu'à un certain moment, s'ils font le choix de la compétition, c'est difficile de papillonner sur plusieurs plusieurs activités, donc il faut se centrer sur une discipline. Mais pour répondre à votre question, oui, effectivement, on a de nombreux exemples de joueurs qui sont de bons joueurs de tennis qui, au départ, viennent d'autres disciplines. Mmh. Hein, sport collectif, basket, hand, volley, athlée.
Ouais, ben, athlée aussi.
Qui est toujours une très bonne formation de base, de toute façon.
Mais quand même, il faut y aller avec précaution parce qu'il y a des à-coups dans le tennis. Hein, et médicalement, est-ce qu'il faut un certificat médical? Est-ce qu'il y a des recommandations particulières à suivre?
Alors, le certificat médical est obligatoire, je dirais, pour les gens qui pratiquent la compétition, puisque c'est demandé par les juges arbitres. Hein, il convient d'avoir un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du tennis de compétition, hein, c'est la formule consacrée. Autrement, je dirais que pour la pratique du tennis loisir, il n'y a pas lieu d'avoir un certificat médical, mais bon, je pense que à l'occasion d'une visite chez le médecin, il est bon de poser la question si on peut faire du sport sans problème particulier.
Hein. Et quelqu'un qui fait beaucoup de tennis, les blessures les plus fréquentes, c'est les tendinites, bras, jambes?
Oui, ce sont tout ce qui touche un petit peu les articulations, les ligaments. C'est un petit peu ces choses-là, hein, les tendons, les épaules, les coudes, voilà.
Alors Alain...
Mais c'est vrai qu'il faut aussi prendre en compte, et c'est aussi ce qu'on essaie d'inculquer à nos jeunes, c'est-à-dire que, et c'est peut-être ce qui n'était pas fait d'une façon suffisante dans d'autres disciplines, c'était apprendre très vite aux jeunes à connaître leur corps et à en prendre soin. C'est-à-dire, c'est savoir s'échauffer correctement, c'est savoir faire des étirements après les matchs ou après les entraînements, c'est savoir s'alimenter correctement, c'est savoir s'hydrater correctement. Et je vois, lorsque nous sommes partis à la boule, puisque cet été nous sommes partis avec 20 jeunes du club à la boule pour leur faire les tournois de toute la région, hein. C'est l'un de nos projets qu'on appelle Ensemble pour partir, qui comprend deux volets, qui comprend ce volet compétition, mais aussi toujours ce volet éducatif, hein, c'est-à-dire c'est aussi apprendre à vivre ensemble, hein. On est parti avec 20 jeunes filles et garçons d'une tranche d'âge de 10 à 17 ans. Eh bien, c'est l'occasion pour nous, par exemple, justement, de veiller à et de les sensibiliser à toute cette notion, de l'hygiène de vie qui est très importante dans la vie d'un sportif. Et c'est quelque chose que l'on doit apprendre très jeune.
Les résultats sont bons, d'une façon générale, de vos équipes engagées dans les différentes compétitions?
Oui, alors, comment dire, les résultats sportifs sont à la hausse, puisque toutes nos équipes seniors se maintiennent, et certaines montent même. On peut, par exemple, signaler l'équipe de 35 ans dames, qui cette année va monter en pré-national. Et puis, au plan individuel, nous avons également d'excellents résultats. Il faut savoir que l'année prochaine, en équipe homme, on aura 4 joueurs en deuxième série. On aura en dames l'intégration, donc l'arrivée d'une joueuse classée 4-6. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi ces éléments qui montent, il y a beaucoup de jeunes qui ont été formés au club.
Ah oui.
Donc ça prouve, comment dire, c'est révélateur du travail en profondeur et de l'investissement qui a été fait depuis quelques années, ce qui nous a valu d'ailleurs une reconnaissance de la Ligue des Yvelines.
Voilà. Puisque la Belgique aussi, comme le basket.
Comme le basket, puisque nous avons le label nous sommes club référent pour la formation des jeunes. Donc c'est un label qui est remis en cause tous les ans, puisqu'il faut atteindre des objectifs qui sont fixés par la Ligue. Alors, pas tant des objectifs en termes de résultats sportifs, mais plutôt sur les moyens qui sont mis autour. Je dirais que ce partenariat avec la Ligue nous a conduit à repenser et à restructurer notre école de tennis, puisqu'il a fallu porter notre effort de formation vers la compétition chez les catégories plus jeunes, c'est-à-dire de descendre au niveau de l'âge, c'est-à-dire l'effort se porte dès les 7 ans. et également de multiplier par deux les volumes d'entraînement. Donc bien, tout ceci se traduit aussi par des coûts hein, au niveau du club, parce que derrière ce sont des ressources humaines, c'est des occupations de cours, donc ça remet en cause aussi toute l'organisation et la gestion du club.
Oui, bien sûr. Ouais.
Mais les résultats sont là, donc c'est encourageant. Et pour vous dire, parler de résultats sportifs, j'ai en mémoire deux jeunes là qui en arrive à sa 9e finale en tournoi. D'accord. On a une de nos jeunes qui a été quand même sélectionnée en équipe pour les championnats de France par équipe, et à la boule, nos jeunes ont parti en brillant puisqu'ils sont retrouvés à plusieurs reprises soit en position de finaliste ou certains même ont remporté les tournois.
On peut vous rejoindre ou c'est trop tard, parce qu'il y avait le forum des sports la semaine dernière hein, dans le parc du château qui marchait très bien. Est-ce que vous êtes complet ou est-ce que vous pouvez encore accueillir
Il n'est jamais trop tard pour nous rejoindre.
Ouais. Hein, c'est bien.
Alors au niveau des jeunes, il nous reste quelques créneaux disponibles. Et puis je dirais qu'au niveau des adhérents, là on procède actuellement à la réinscription des nouveaux adhérents. Donc là c'est ouvert. Au contraire,
ouais.
C'est avec plaisir.
Ils viennent s'inscrire donc sur les cours de la Clairière, ils viennent vous voir et puis voilà.
Tout à fait. Il y a une permanence tous les samedis matin.
Donc créneau horaire bien défini pour chaque catégorie d'âge. Hein.
Pour chaque catégorie d'âge, avec des objectifs, avec des progressions, voilà.
Et des éducateurs aussi de tennis.
Alors oui, bien évidemment, nous fonctionnons cette année avec deux brevets d'État. Hein, donc qui sont particulièrement chargés du volet compétition, avec un brevet d'État masculin plus sur la filière masculine. Et une jeune femme sur la filière féminine, et puis aidée par des initiateurs.
C'est indispensable, ça, dans un club, d'avoir des éducateurs, où on peut finalement avoir un club de tennis sans avoir d'éducateurs
Non, je pense pas. Aujourd'hui, si on veut gérer les choses correctement, je pense qu'il faut avoir recours à la compétence. Donc, il faut aller chercher la compétence vers les professionnels. Et tous nos initiateurs...
On peut pas s'improviser comme ça.
Non, non. Ouais. Tous nos initiateurs suivent une filière de formation, une filière diplômante auprès de la Ligue.
Alors, on parlait des résultats des différentes compétitions. Aujourd'hui, il y a naturellement un immense événement. Hein. On le dit, il y a beaucoup de choses aujourd'hui dans la région. Il y a la semaine équestre qui se termine. Il y a les 24 tours auto sur Mouillet. Et il y a la finale du tournoi de la Clairière. C'est le plus grand rendez-vous de l'année pour vous ?
Alors
c'est plus important,
c'est le deuxième plus grand rendez-vous, puisque on a un premier rendez-vous au mois de juin avec notre tournoi jeune. Il faut savoir que cette année notre tournoi jeune ça a été 210 participants, donc une augmentation à peu près de 10% par rapport à l'année précédente, avec des jeunes qui viennent de la région parisienne, mais on a eu aussi des jeunes qui venaient de la région Normandie, de la région Bretagne. Donc c'est véritablement un tournoi de haut niveau de portée régionale. Et puis donc le deuxième événement, c'est effectivement notre tournoi Open dont les finales ont lieu cet après-midi. Et là c'est pareil, les chiffres sont à la hausse puisqu'on a 280 participants, et le niveau est quand même élevé puisqu'en garçon ça va se terminer à moins 2 et en fille à 3-6. Donc ça prouve que notre tournoi est non seulement connu mais reconnu.
Alors c'est un tournoi qui se déroule depuis maintenant plusieurs années en septembre. Avant c'était au mois de mai. C'est une bonne chose pour vous d'avoir décalé comme ça en septembre, dans une époque quand même très, très chargée pour vous. Hein.
Alors,
les inscriptions de début de saison, il y a tout ça fait pas mal de boulot.
Alors, comment dire, on l'a décalé parce qu'au mois de mai, souvent, on avait le temps qui n'était pas favorable, avec des week-ends, avec aussi, je dirais, pas mal d'autres tournois. Et donc, on a choisi depuis quelque temps de le mettre en septembre. Et voilà, ça se passe très bien, tant du côté de la météo que du nombre de participants, puisqu'on a plus de participants qu'avant.
On se concerte entre les différents clubs avoisinants pour mettre un tournoi sur pied, parce que le TCR fait son tournoi fin juin, début juillet.
Oui.
Il y a nos amis de Cernay fin juin, il y a aussi au Fargis fin mai, début juin. Est-ce qu'on se concerte ?
Alors, il n'y a pas obligatoirement une véritable concertation autour d'une table ronde, mais on essaie quand même de voir et de s'arranger pour que les tournois ne se chevauchent pas de trop.
Ouais, ouais, ouais. Hein.
Mm-hmm. Voilà.
Et puis, au Pérez, ça repart pour mois de décembre. Oui, il y a un tournoi indoor open en décembre.
Ben, c'est très bien, c'est très bien parce que ça, parce que les tournois d'hiver comme ça, il n'y en a pas beaucoup et en avoir un à proximité, c'est très bien.
Donc, un tournoi important. On connaît déjà les finalistes ou ce matin ont lieu les demi-finales?
Ce matin ont lieu les demi-finales.
Voilà. D'accord.
Et ce que je voulais également souligner, c'est qu'au niveau de l'action, et là, c'est un petit peu dans le rôle que l'on veut jouer au niveau de la cité. Nous avons mis en place, on va reconduire pour cette année, des actions de partenariat avec l'éducation nationale, ce qui nous permet de développer des actions avec les enseignants des écoles du site de la Clairière.
D'accord.
Voilà.
Ok, donc c'est-à-dire que les jeunes viennent jouer au tennis, viennent s'initier.
Voilà, on organise des cycles de 10 séances de découverte et d'initiation au tennis. Mm-hmm. Et tout ça se termine au mois de juin par une grande fête. D'accord. Avec l'ensemble des classes, des écoles qui ont participé à ces cycles de formation.
Mm-hmm. Donc aujourd'hui, pour revenir sur le tournoi Open, il y a des partenaires fidèles, il y a des lots qui sont proposés, et si oui, quel type de lot?
Il faut
toujours leur rendre hommage aux partenaires qui vous aident. Hein.
Oui, il y a toujours, bien sûr, des lots numéraires, je dirais, parce que ça, dans les grands tournois...
Il n'y a pas de voyage à gagner.
Il n'y a pas de voyage à gagner. Et puis, on a nos sponsors aussi qui nous suivent. Certains nous ont bien aidés également pour l'expédition que nous avons menée à la boule avec les jeunes.
Oui.
Donc, nous avons, je ne voudrais pas en oublier, mais il y a les carrosseries de bêtes, il y a le Citroën, nous avons Intermarché.
Ça, c'est des fidèles qui reviennent chaque année.
Oui, ce sont des fidèles.
Ça prouve
nous avons
ce tournoi et bon.
Tout à fait.
Nom, hein.
Tout à fait. Tout à fait.
Mm-hmm. Alors, il y a aussi des projets avec l'Handisport et Daniel Blanchet.
Voilà. Alors, des projets depuis maintenant quelques années, nous avons accueilli la section fauteuil de la section Handisport, et avec Daniel Blanchet, on avait toujours en projet d'engager une équipe en championnat. Mmh. Donc là, nous avons l'effectif suffisant pour engager une équipe handisport en championnat officiel, ce qui va donc être fait cette année, et pour donner, je dirais, toutes les facilités à cette équipe et d'être au top, eh bien, nous avons décidé de doubler le volume d'entraînement.
D'accord.
C'est-à-dire qu'ils auront deux entraînements par semaine, entraînés par nos deux brevets d'État, qui vont suivre ou qui ont suivi une formation spécifique, parce que il y a une approche un petit peu particulière pour ce type d'exercice.
Mais c'est vrai qu'il y a toujours eu quand même une sorte de partenariat, d'alliance entre Daniel Blanchet, l'Handisport, donc des Yvelines et la Clairière.
Oui,
nous
cheminons ensemble depuis.
Je me rappelle pour le Téléthon.
Tout à fait.
Notamment, hein,
nous cheminons ensemble depuis très longtemps. Mais je dirais que voilà, c'est significatif de l'esprit que l'on essaie de développer au tennis de la Clairière, c'est-à-dire de ne pas être un village gaulois replié sur lui-même, mais véritablement de s'ouvrir vers la cité, de s'ouvrir vers les autres, de travailler. On essaie aussi beaucoup de travailler sur l'intergénérationnel pour éviter ces fractures qu'il peut y avoir entre les jeunes et les plus anciens. Et là, on voit que les choses marchent bien aussi.
Mmh. Alors, on parlait justement du caritatif tout à l'heure avec l'association. Et là, vous allez aussi être encore présent sur le Téléthon cette année. Ça aussi, c'est une longue histoire d'amour entre vous et le Téléthon.
Oui, bah pour nous, il n'est pas question de ne pas participer au Téléthon. Ça fait partie, je dirais même pas de nos missions. Pour nous, c'est devenu quelque chose de naturel de participer à cette manifestation. C'est aussi l'occasion pour nous d'organiser, comme l'année dernière au club, des manifestations qui sortent un petit peu de l'ordinaire, et d'attirer les parents, d'attirer les adhérents en leur proposant des animations au profit du Téléthon. Mais donc, ça, ça permet aussi de développer un petit peu un esprit de famille.
Bien sûr. Vous, ça se concrétise par le fait que vous êtes présent à Intermarché.
Alors nous sommes présents, oui. Nous sommes présents donc avec Daniel Blanchet, effectivement d'un crédit marchand d'Intermarché. Et puis nous mettons, comme je l'ai dit, également en place le samedi soir, nous mettons également en place des actions au niveau du club. Mmh. Voilà. L'année dernière, avec vin chaud, partie de tennis pour tout le monde, des tournois à la mêlée, etc., etc.
Alors, après le tournoi Open de la carrière, on va rappeler les finales, c'est 14h30 aujourd'hui.
Les finales dames, c'est à partir de 14h. Mmh, ensuite, nous enchaînons justement avec une démonstration de tennis en fauteuil, ce qui est toujours spectaculaire. Et puis ensuite, les finales hommes à partir de 16h, et puis la remise des trophées avec le pot de l'amitié à partir de 18h.
C'est ça, c'est au meilleur des 3-7 les matchs.
C'est ça.
D'accord, très bien. Alors, après le tournoi Open et avant le Téléthon, il y aura les trophées RVE.
Oui, alors, trophées RVE, bien sûr.
Là, ça aussi, c'est une histoire d'amour, quoi. Vous êtes là depuis le début. Quoi.
Nous sommes là depuis le début, nous avons repris le flambeau après ceux qui nous ont précédés, et c'est toujours avec une grande joie qu'on participe à ce trophée qui est tout à fait amical.
Ouais. Atypique aussi.
Atypique, et donc pour bien rester, pour bien coller, je dirais, à l'esprit de RVE. Depuis l'année dernière, nous avons décidé d'aligner des équipes constituées de joueuses et de joueurs qui ne font pas obligatoirement de la compétition.
Et qui demandent justement à jouer qu'une fois par an.
Voilà.
C'est
donc au niveau du club, on met ça plus au rang de nos animations.
Alors justement, ça a permis quand même de connaître les clubs avoisinants, ce qui n'était pas le cas avant. C'est fou quand même ça.
Oui, et ça permet justement, comment dire, au président des clubs de proximité et aux dirigeants de mieux se connaître.
De s'aider, vous avez même parfois, je ne veux pas dire des partenariats, mais des entraides, quoi.
Oui, tout à fait. Moi, ça nous est arrivé.
Des actions communes.
Oui, ça peut nous arriver. Et puis, dans un club, il peut y avoir un jour quelqu'un qui est blessé au niveau des enseignants. On peut toujours aider. À ce moment-là, filer un coup de main. On n'est pas en compétition ni en concurrence les uns vis-à-vis des autres. Chacun sa place.
Oui, mais ça a permis à des gens de se connaître au sein du sport à quelques kilomètres d'intervalle.
Tout à fait.
Alors, justement, les dates, c'est les 6, 7 et 14 octobre. Donc, on va le rappeler. Et naturellement, les gens peuvent aussi s'inscrire ou vous êtes déjà complet au niveau des équipes. Vous avez déjà vos équipes en tête?
Oui, nous avons délégué parce que nous fonctionnons d'une façon très structurée chez nous. Donc, nous avons mis quelqu'un sur un de nos initiateurs, justement. Nous l'avons chargé d'organiser et de mettre en place les équipes et je sais que dès cette semaine il a commencé à plancher sur la composition des équipes.
D'accord, voilà. Et la carrière a gagné très longtemps ces trophées, y compris chez les jeunes, et donc cette année vous allez malgré tout essayer de regagner ces trophées, même que ce soit d'animation.
tout à fait.
On se pique au jeu quand même.
On va se piquer au jeu, pas de problème.
Très bien. Les autres actions, bon, elles sont déjà nombreuses, on en a parlé, mais est-ce qu'il y a encore d'autres qui vous touchent et qui vous tiennent à cœur?
Non, je crois que là, on a pas mal brossé l'ensemble des actions que l'on mène et que l'on va reconduire. Comme je vous l'ai dit, on va reconduire les actions avec les écoles, parce que ça, c'est aussi très, très important. Et puis, l'année prochaine, on espère, pour l'instant, c'est un projet. Mais on a bien l'intention de repartir de nouveau, de reconduire ce formidable projet ensemble pour partir avec les jeunes pour les emmener à la boule. Donc c'est une expérience formidable, et on voit aujourd'hui, on voit les effets, ce qu'on appelle toujours les effets post-la boule, c'est-à-dire que très souvent on ne mesure pas les effets au moment du tournoi à la boule, mais après où les jeunes prennent confiance, où véritablement les jeunes sont pris dans un moule de compétition. Et puis les autres effets, c'est aussi sur le plan humain. C'est-à-dire que là, on a vu tous les jeunes qui étaient à la boule, qui venaient jouer régulièrement sur les cours et qui jouaient entre filles et garçons. Donc il n'y a pas cette césure entre filles et garçons. Et puis on sent aussi que ces jeunes sont plus proches des encadrants. Donc les gens se connaissent mieux.
Alors justement, dernier petit mot. On va rentrer maintenant dans la compétition sur un plan plus national ou internationale. Comment vous vivez, vous, cette saison sur un plan plus général, international et national ? Alain, vous, l'amateur de tennis que vous êtes, vous regardez les matchs, le tennis français va pas très bien quand même.
Oui, oh, je crois que c'est comme toujours, il y a des hauts, il y a des bas. Vous savez, je crois qu'on peut pas non plus toujours avoir des joueurs qui soient au meilleur niveau international. Mmh. Il faut quand même savoir que c'est quand même très difficile, hein, que c'est quand même très difficile et nous ne sommes pas les seuls. Il y a quand même de nombreux pays. Voilà, donc peut-être que dans quelques temps les choses iront peut-être un petit peu mieux.
Oui, parce qu'on ne peut pas dire qu'on n'ait vécu qu'une grande saison, excepté peut-être où Wimbledon, où les Français avec Bartoli en finale, et puis donc les hommes en demi-finale, pas de représentant en deuxième semaine de Roland-Garros, pas de représentant en deuxième semaine de Flushing Meadows, hein, c'est donc prématurément éliminé de la Coupe Davis. C'est pas quand même une période très favorable au tennis français.
Non, ben on est peut-être là un petit peu dans le creux de la vague, mais peut-être que d'ici un an ou deux, les choses seront complètement différentes. Hein. Mm-hmm. Comme me disait un grand entraîneur de basket, le plus difficile c'est pas d'arriver au meilleur niveau, c'est d'y rester.
Oui, c'est sûr.
Mm-hmm. Et donc toujours aussi ce souci de travailler, d'avoir des jeunes derrière, parce que mm-hmm. avoir des joueurs d'exception, ça peut arriver, mais pérenniser cet état de fait, c'est quand même quelque chose de difficile. Il faut arriver à conjuguer plusieurs facteurs. Mm-hmm. Donc c'est pas si simple que ça.
Federer, c'est un joueur que vous aimez, c'est le plus grand champion de tous les temps.
Oui,
il est parti pour. Hein.
Oui, je crois qu'il marque. il marque sa période. Hein. Ça, c'est indéniable.
Mm-hmm. Hein. Chez les femmes, c'est Serena qui cette année domine la compétition, même si les sœurs Williams ont gagné chacune un grand tournoi. Une qui a gagné Melbourne, l'autre Flushing Meadows.
Oui, effectivement. C'est une joueuse que moi j'aime bien personnellement. Ouais. J'aime bien sa personnalité et puis personnellement je la trouve assez sympathique et elle a très beau tennis aussi.
Vous aimez le tennis actuel, voir les matchs actuellement par rapport à ce qu'on a connu dans la génération des Borg, McEnroe, Connor. Est-ce que les matchs vous plaisent? Bon, vous êtes dans le tennis, vous êtes dans le milieu, hein, mais sur un plan national, international, vous aimez voir les matchs? Vous le trouvez spectaculaire, plus spectaculaire qu'à une certaine époque, moins?
Ça a complètement changé. Je pense que ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus puissant. Et donc, c'est mon sentiment personnel. Parfois, ça a perdu peut-être un petit peu de son côté spectaculaire parce que cette puissance est omniprésente. Donc, on voit peut-être plus des coups que l'on voyait avant. C'est véritablement, il y a beaucoup de choses qui sont axées sur la puissance de jeu, sur la puissance de frappe et sur la vitesse. Mm-hmm. Mais bon, c'est une évolution, hein, comme dans tous les sports. Hein. On voit les mêmes évolutions dans le rugby, on voit les mêmes évolutions dans le basket, on voit.
Est-ce qu'ils prennent plaisir à jouer? On a le sentiment que des fois, c'est des métronomes.
J'espère qu'il garde du plaisir, hein, parce que faire du sport, même de très haut niveau, sans plaisir, c'est passer à côté de l'essentiel.
C'est ce qui fait la différence, de toute façon.
C'est passer à côté de l'essentiel.
Mm-hmm. Alors, on parlait des résultats chez vous. Est-ce qu'un jour, si quelqu'un était voué à aller beaucoup plus haut, vous le laisseriez partir? Est-ce que c'est pour vous incontournable?
Ah bah je crois que de toute façon un joueur n'appartient à personne. Mm-hmm. Et je pense que un entraîneur, et c'est le raisonnement que j'avais également quand j'étais entraîneur de basket, parce que j'ai vu des jeunes qui sont passés entre nos mains, qui ensuite sont partis jouer ailleurs. Alors on est toujours un petit peu frustré lorsque les gens partent. Oui. Mais il faut savoir que l'on participe comme un enseignant, hein, on participe à un certain moment
à
son évolution, hein, à son éclosion. Mm-hmm. Et ensuite, eh bien, s'il part jouer ailleurs, tant mieux pour lui. Hein, et, bien évidemment, on ne le forme pas pour le garder pour nous, on le forme pour lui.
Très bien, ben on va marquer un petit break musical, hein, et puis ensuite, eh bien, oui, le temps passe très vite, Alain. Hein,
oui,
on reviendra aller une toute dernière fois sur les différentes activités de votre club, hein, et puis notamment ce tournoi Open. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui, mais il y a aussi la finale de la Clairière. Faut pas oublier, c'est un rendez-vous important pour votre club. Voilà, allez, la pause musicale. Oui, 9h54 minutes. Alors, on espérait avoir un petit direct avec notre ami Bruno Davaz, hein, qui est chargé de la communication sur la semaine équestre du Perret en Yvelines. Vous savez ce que c'est, Alain? Il est très pris par l'organisation. Il doit être très fatigué. Il doit être en train de dormir. Donc, Bruno, et ben, il sera à nouveau opérationnel qu'en début d'après-midi. Alors, on va quand même vous rappeler que, eh bien, hier, c'était notamment le prix RVE et c'est une course qui a été remportée, cette puissance Shetland, eh bien, par Chloé, qui est ni plus ni moins la fille du patron du Roi de Rome. Sur Rambouillet, vous voyez que le monde est petit et que le spectacle hier soir donc a remplacé la compétition à l'occasion donc de la retraite au flambeau ou avec le carrousel. On a pu apprécier tout ce qui se fait sur l'activité cheval parce qu'on ne va pas oublier qu'aujourd'hui c'est aussi la journée nationale du cheval et du poney. La semaine équestre donc qui continue avec différentes épreuves donc à 9h, 11h30 et 14h, hein, et notamment donc le prix de la ville et des commerçants du Perret et ensuite d'autres épreuves à 15h30 et 16h30. Il y aura aussi des baptêmes de poneys et attelages et des rassemblements de cavaliers d'extérieur. Et puis demain, donc, on finira cette 28e semaine équestre avec deux épreuves. Donc, le prix du conseil général à partir de 10h et ensuite, donc, le grand prix Chuco à 13h. Il y a eu un peu moins de monde qu'à l'ordinaire, donc, sur cette semaine équestre. Et peut-être, on penche déjà sur une refonte de l'édition pour les prochaines années. Alors, donc, je l'ai dit, 24 tours auto, semaine équestre. Et puis donc le tournoi Open, vous n'oubliez pas naturellement de vous y rendre. Un petit mot sur les femmes, parce que c'est aussi important dans votre club.
Oui, nous disons que nous avons mis les mêmes moyens pour le tennis féminin que pour le tennis masculin, parce que pour nous, il semble très important que le tennis féminin ait les mêmes chances de réussite que le tennis masculin. Là, je parle du volet de compétition, bien évidemment.
Oui, bien sûr.
Sachant que, si on parle compétition pure, les dames chez nous jouent un niveau un peu supérieur aux hommes. Et je dirais que ça fait aussi partie de notre philosophie de donner aux dames toutes les possibilités de réussir dans le sport. Parce qu'on constate que très souvent, pour d'une façon générale dans le sport, il est bien plus difficile à une dame de réussir que pour les hommes.
On en parle encore moins que... Même encore maintenant, si ça bouge un peu, on en parle encore moins quand même. Hein.
C'est moins médiatisé. Ouais. D'une façon générale, les médias s'intéressent beaucoup moins au sport féminin qu'au sport masculin.
Ouais.
À tort, c'est moins porteur, parce que je crois que l'on peut, si on exclut la puissance physique, je crois que ça soit dans le sport individuel ou dans le sport collectif, on peut, chez les femmes, faire un sport qui est exactement du même niveau que chez les hommes.
Ouais, oui.
Hein. Mais c'est vrai que c'est difficile pour les dames, je dirais, d'arriver à concilier vie de famille, vie professionnelle et vie sportive. Chez les hommes, c'est plus difficile. Donc, nous, on s'attache, je dirais, à mettre tout en œuvre pour que les femmes puissent, je dirais, pratiquer le sport et faire la compétition au même titre que les hommes. Donc, même moyen, même volume d'entraînement et... Voilà.
On en parlait hein, du haut niveau tout à l'heure, sur le plan donc national et international. Le tennis féminin a énormément progressé. Hein.
Oui.
Et c'est même parfois devenu plus spectaculaire que les hommes.
Oui, mais justement, c'est parce qu'il n'y a pas encore, comment dire, je pense, cette super puissance. Moi, personnellement, c'est mon avis personnel, je préfère voir des matchs de tennis féminin, quand je parle du haut niveau, que tennis masculin, parce qu'on voit encore des coups chez les femmes qu'on ne voit peut-être pas chez les hommes. Enfin, ça... C'est différent. Justement, cette différence tient au fait qu'il n'y a pas cette puissance.
Allez, dernier petit mot, la citoyenneté, ça a été un mot d'ordre important pour votre club, hein. C'est le leitmotiv permanent, hein. Vous y tenez à cette notion de citoyenneté à travers le sport.
Oui, parce que, alors maintenant c'est vrai que la citoyenneté, même si on était un petit peu promoteur, je dirais, au plan local, dans ce que l'on a mis, dans les projets qu'on a mis en place, maintenant bon, c'est un peu galvaudé, je dirais, un petit peu récupéré par tout le monde, mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur, parce que on pense qu'un club, ça doit être autre chose qu'un endroit où on fabrique des champions. C'est pas un incubateur de jeunes champions. d'ailleurs tous les jeunes, hein, toutes les personnes n'ont pas les capacités de devenir des champions. Mm-hmm. Donc il faut faire des choses pour tout le monde, et donc les enseignants sont aussi des éducateurs. Hein, mm-hmm. Donc ça, c'est très très important.
Merci Alain Cintra, bonne journée avec le ton à peine, hein, puis à très bientôt.
Et puis à bientôt.
Ouais, merci, voilà. Allez, maintenant, après le tennis, on passe au ballon ovale dans quelques minutes avec Tribune Rugby, hein, c'est naturellement l'époque du mondial. Donc Tribune Rugby d'ici quelques minutes.
Il est 10h, bon dimanche sur RVE.